Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Pour ce mois de février, en raison de la fête de la Chandeleur, fête de la lumière, je vous propose des romans étonnants et même surprenants. À l'exemple du premier, « L'amour ne tient qu'à un fil » de Françoise Dornet, ou « La survivante », un recueil de poèmes de Maria Prat, ou encore un troisième, « La petite fille blanche » de Tony Birch, un grand romancier qui vient d'Australie. En quatrième position, « Les fantômes de Versailles » de Jacques Forgas, grand roman historique. En cinquième position, c'est « Mensonges qui nous lient » de Linwood Barclay. En sixième position, « Vivre tout bas » de Jeanne Benhammer. Surprenant, vous verrez. Un essai, pour finir, sur « La société de la trahison » de Vincent Cespedes, un livre qui, selon moi, fait débat, avec la crise mondiale que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors, je commence donc par le premier, « L'amour ne tient qu'à un fil » de Françoise Dornet, qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est une diffusion Gilles Paris que je remercie pour plusieurs romans que j'ai reçus grâce à lui, à Gilles Paris. Un récit, « L'amour ne tient qu'à un fil », c'est un récit enlevé, plein de poésie et d'équilibre à la mémoire de son amie qui s'appelait Annie Fratellini, qui faisait du cirque, comme vous le savez. À qui elle doit le fil de ce roman, parce que l'amour ne tient qu'à un fil, voilà. L'héroïne de ce roman, l'amour ne tient qu'à un fil, comme son grand-père qui évoluait sur le fil au-dessus des chutes de Niagara, s'appelle Lucie et elle met tout son cœur à défier le vide. Mais voilà, à 28 ans, elle a connu 2 semaines d'amour fou, avec Charles, un musicien d'orchestre qu'elle avait rencontré un soir, un bal d'un soir, voilà. Et du jour au lendemain, malheureusement, ce Charles a disparu en lui laissant son violon, sans jamais donner de ses nouvelles. Et quand leur enfant est né, parce que de cette liaison folle, il y a eu un enfant, et l'enfant est né, il s'appelle François, elle a voulu qu'il grandisse avec la présence de cet homme qui demeure pour elle la passion de sa vie. Alors, elle a fabriqué à son image un mannequin articulé qui siège dans le salon et qui partage leur quotidien. Donc, les jours passent, voilà. Jusqu'au jour où son fils François, devenu grand, passe une annonce pour vendre le violon qui ne sert plus à rien, parce que personne ne sait en servir. Et bien voilà, le vrai Charles sonne à la porte pour récupérer, entre guillemets, le violon. Eh bien, je peux vous dire que ce récit, ce roman, est tout à fait charmant et enlevé. C'est écrit avec la sensibilité et l'humour décalé de Françoise Dornet, qui est une grande dame de la littérature et qui tisse des liens magiques entre les trois personnages qui sont irrésistibles, prêts à tout pour donner une seconde chance à une passion impossible. Je peux vous dire que c'est à découvrir, à lire, le cœur en fait, pour savoir si cette passion impossible a pu reprendre. Voilà. À vous. Le deuxième recueil, le deuxième livre, est un recueil intitulé « La survivante de Marie Prat », de Maria Prat. Une Parisienne, éditée par le Lys Bleu, par Marie Prat, éditée par le Lys Bleu, qui est un éditeur, qui se trouve 40 rue du Louvre à Paris. Voilà. La survivante se présente comme une symphonie introspective où chaque mot résonne avec la profondeur des pensées et des émotions de la poète. À travers des compositions empreintes de lyrisme, elle révèle ses amours, ses convictions, l'attachement tendre à son chat et une nostalgie qui enveloppe le tout d'une aura singulière. Ce recueil de 50 poèmes, riche en métaphores et en musicalité, invite à explorer les méandres de l'âme humaine dans toute sa complexité, captivant par sa délicatesse et sa puissance évocatrice. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai décidé de vous lire 4 poèmes différents, mais justement, vous comprendrez son style. Amour, que notre secret est incroyable. Je l'ai confié à 3 personnes. Le reste du monde ne le sait pas. Forcément, c'est un secret. Le Très-Haut t'a fait extraordinaire. À moins que ce ne soit moi. Le cerveau est greffé dans le ciel, il en pleut des impressions superbes. La lune même ignore ce qu'elle perd. Nous lui avons mis un bandeau. Il n'y aura que le soleil pour qui nous préparons la révélation. Préparons-nous à recevoir le 4e hôte. C'est l'été bientôt, tout doit être en fête, notre secret s'assaute, vive le soleil et vive toi que j'aime. La vérité, je dois maintenant la dire à tous, tu es un animal et tu as parlé comme un humain. Tu as vaincu la science et fléché toutes les certitudes. Le deuxième est un peu court. Le deuxième poème que je lis. Le rêve d'un poète est souvent d'être aimé. Que dodelinent les visages en écoutant ses sons. Mon rêve est d'être un grand cheval de course sur lequel se pose une étoile. Il y a aussi parfois de la douleur. J'avais 10 ans, maman, quand j'ai bien cru te perdre. Tu n'étais pas rentrée à l'heure où tu devais. J'ai cru que tu étais disparue à jamais. j'ai hurlé tout mon soûl. J'ai hurlé dans le couloir et sur les murs. J'ai hurlé durant une heure à en mourir. J'ai hurlé en m'infligeant des griffures. J'ai su que tu n'allais plus revenir. La douleur face à une réalité monstrueuse, indélébile, une exterminatrice, on t'avait à jamais éloigné de mes bras, m'a fait haïr la condition d'orpheline. Qu'y a-t-il de pire pour un petit enfant que de perdre ses parents? Il est privé de leur douce chaleur, rien ne pardonne ce crime du hasard. Et un quatrième, vous allez voir comme il est bien rythmé. Le soleil parfume l'air du soir, velouté comme une pêche, crisant telle une balançoire, nous avons fenêtre ouverte. Appuyé sur ton cahier, tu comptes tes jours de travail. Loin de toi, je suis lové contre mon propre arsenal. Qu'il fait doux de vivre ainsi, je regrette seulement qu'on entende autant de bruit derrière la fenêtre ouverte. La tension qui se défait dans mes nerfs accumulés m'a laissé comme un forfait, une petite note blessée. Voilà, je m'arrête là parce qu'il faut bien s'arrêter, je ne peux pas tout vous lire de ces poèmes. Marie Prat est professeure de français à Paris. Elle nourrit une passion profonde pour la poésie, explorant des œuvres de toutes les époques et de divers horizons culturels, ce que confirme ce recueil éclatant. Et c'est vrai que c'est... Elle m'a envoyé, un peu comme une bouteille à la mer, ce recueil de poésie depuis Paris. Voilà, j'espère qu'elle m'entendra vous le présenter. Alors, je passe au deuxième livre. C'est la dernière. Au troisième livre, voilà. La petite blanche... La petite fille blanche de Tony Birch, édité par Synchronique Édition, qui est une édition australienne. Et là aussi, je remercie Gilles Paris qui a bien voulu me le faire parvenir. La petite fille blanche de Tony Birch est un grand roman se déroulant en Australie et mettant en scène la vie des aborigènes qui étaient séparés de celle des Blancs. Les Blancs, à cette époque, pouvaient tout se permettre, et non pas les aborigènes. Ce roman est une très belle traduction de Nadine Gassi pour l'un et que Tony Birch est l'un des auteurs les plus populaires d'Australie. Son personnage, c'est Odette Brown. Elle a passé toute sa vie en périphérie de Den, une petite ville rurale australienne. Elle a une fille, Lila, mais malheureusement, celle-ci a disparu sans jamais revenir, lui abandonnant la petite Sissi, âgée d'un an. Et pendant 13 ans, Odette a réussi à élever sa petite fille discrètement, évitant l'attention des services sociaux qui enlèvent les enfants aborigènes à la peau claire, à leur famille. Parce que justement, cette petite fille blanche de Tony Birch a la peau claire. Alors on découvre, par la suite de, ce, de la lecture de ce roman, qui a été vraisemblablement le père, donc celui qui a enfanté cette petite fille avec Lila. Mais voilà, arrive en ville un nouveau policier zélé, bien décidé à faire respecter la loi à la lettre. Il perturbe la vie des Brown, car Odette devra faire preuve de courage et même de ruse pour protéger Sissi des autorités, tout en tentant de retrouver sa fille, parce que sa fille, je vous l'ai dit, elle avait disparu. Et elle pense la retrouver. Et on va la retrouver. Partie à la capitale. Se cacher, disparaître à la capitale et vivre à la capitale. Alors donc, on le découvre par la suite. Et dans cette fuite à travers l'Australie des années 1960, le plus grand conteur indigène australien d'aujourd'hui, qui s'appelle Tony Birch, nous offre un roman immersif et d'une profonde humanité qui explore les limites que nous nous sommes prêts à franchir pour protéger ceux que nous aimons. Et je peux vous le dire, je connais une lectrice qui l'a adoré, donc il y en aura d'autres. Beaucoup de lecteurs et de lectrices vont apprécier totalement ce grand livre, La petite fille blanche, de Tony Birch. Et je passe au quatrième livre, Les fantômes de Versailles, de Jacques Forjas, paru chez Albin Michel. C'est un grand roman historique, Les fantômes de Versailles, qui nous plonge en 1673 à Paris, rue Pastourelle, où l'on découvre le corps d'une jeune femme, fort ensanglantée du visage, et les élèves cousus d'un fil de soie. C'est la première victime d'une série de meurtres identiques. Alors, le personnage principal de ce roman, Les fantômes de Versailles, s'appelle La Reynie. Il est lieutenant général de police et il missionne deux enquêteurs très habiles par lesquels on va découvrir des choses, ainsi qu'un jeune artiste italien venu de Rome qui s'appelle Emilio. C'est l'autre personnage de ce roman. Il est assistant du peintre Mignard. Mignard qui était un grand peintre, le grand peintre de la cour. Vous connaissez ce nom, Mignard. Et cet Emilio fait des esquisses. Il va faire des esquisses des victimes à la morgue. Parce qu'en Italie, à Rome, il avait déjà l'habitude de travailler sur des cadavres pour essayer de parfaire son geste, son dessin. Et ce qui est formidable avec Emilio, c'est qu'il leur redonne vie, voilà, à ces esquisses des victimes. Il leur redonne vie, même s'ils ont eu le visage déformé. Et favorisant ainsi la collecte de témoignages, une façon d'assurer, à partir de ce temps-là, l'invention de la police moderne pour rechercher l'identité des victimes inconnues. Qui étaient-elles? D'où venaient-elles? Et on a même un des enquêteurs pour connaître l'identité d'une victime qui va aller jusqu'à Marseille, donc quitter Paris, traverser, descendre le Rhône, passer par Lyon, que l'on décrit à cette époque où la place Bellecour était en réfection, avec la statue de Louis XIV, en allant jusqu'à Marseille, voilà, pour découvrir un autre personnage, et il va découvrir un autre personnage. Et donc voilà Emilio, ce jeune artiste peintre, projeté malgré lui au cœur de deux enquêtes fort différentes, car dans l'atelier de Mignard, se peint un tableau mystérieux qui inquiète la cour et bien d'autres personnes. C'est un portrait que doit faire Mignard, un portrait de la duchesse de la Vallière, maîtresse en disgrâce de Louis XIV. Alors comment est-elle représentée? Soit avec ses deux enfants, soit en moniale, car elle désire, paraît-il, se retirer dans un couvent. Et dans cette peinture tableau, elle dissimulerait avec l'accord du peintre un dernier message au roi. Voilà pourquoi la cour, toute la cour et l'araignée aussi, on s'interroge sur ce tableau. Alors on demande à Emilio d'en savoir plus, puisqu'il est l'assistant de ce peintre. Et on va de Paris au Châtelet. J'ajoute que Emilio est un beau jeune homme, un artiste accompli, qui plaît aux femmes, en particulier à une certaine comtesse, qui espère bien par lui accéder à la cour de Versailles. Parce qu'elle va même lui avancer de l'argent, parce que pour devenir l'assistant de Mignard, il faut débourser une certaine somme d'argent que Emilio n'a pas. Donc c'est la comtesse qui va lui donner cette somme d'argent nécessaire. Et puis en revanche, elle essaye d'obtenir d'Emilio qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau, cette peinture. Et voilà. Et puis il a Constance qui est sa favorite, une autre femme, voilà. Et il espère pouvoir partir vers la Hollande parce que dans sa naïveté, Emilio oublie que la France est en guerre avec la Hollande, une guerre qui fait des victimes. Et puis il faut bien le dire, il est manipulé par l'araignée qui s'en sert pour les deux enquêtes, car l'araignée veut aussi savoir, dans l'atelier de Mignard, qui est représenté, et avec le commissaire Delamare au Châtelet et le légiste Andrieux, de reconnaître une deuxième victime qui sent le musc, et il y en aura dans les dessins du musc. Voilà, je voulais vous dire. Alors on va des bas-fonds de Paris où rôde la redoutable police secrète de Colbert, parce qu'un autre personnage important, c'est Colbert, qui a de gros ennuis en Orient. Et on va le découvrir, ces gros ennuis. Je ne vous les dévoile pas parce que vous verriez le pourquoi du comment des meurtres. Oursourdis, donc en Orient, elle est à la cour de Versailles, Oursourdis les plus folles intrigues. Jacques Forjas, en grand historien érudit, signe ici un polar captivant qui raconte la naissance de la police moderne. C'est donc par une grande enquête minutieuse que ce roman descriptif et enlevé nous emporte. Et l'on va écouter de la musique, une très belle musique, donnée à Versailles par Marin Marais. Thank you. Voilà, une très belle musique en rapport avec Versailles, avec Marin Marais, Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe, avec de grands musiciens qui pratiquent la basse de viol, le clavecin et puis le théorbe. Voilà, je voulais vous le faire vraiment entendre parce que ça va bien avec le roman que je vous ai décrit, Les fantômes de Versailles de Jacques Forgas. Alors, je parle maintenant d'un cinquième livre, un peu différent, Ces mensonges qui nous lient, de Linwood Barclay, édité par Bellefond Noir, voilà, que je remercie de m'avoir fait parvenir ce livre, ce grand roman, parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément, Linwood Barclay. Ton papa n'est pas quelqu'un de bien. Ton papa a tué des gens, mon grand, raison pour laquelle il doit partir sans nous et vivre caché. Tels sont les derniers mots prononcés par le père de Jacques avant d'abandonner femme et enfant pour plonger dans l'anonymat du programme de protection des témoins qui risque, si on les retrouve, puisqu'ils ont dénoncé des criminels à la police, qui risquent des poursuites parce que les criminels ont des sous-fifres qui peuvent s'en prendre justement aux témoins. Alors, des années plus tard, Jacques, devenu écrivain, au succès mitigé, faut bien le dire, est recruté par les US Marshall, voilà, les policiers, et une femme en particulier, afin de rédiger des biographies pour ceux qui, comme son père, se retrouvent contraints de rejeter leur passé et de vivre sous une identité toute neuve, insoupçonnable. Est-ce un signe du destin? Car il doit peaufiner ses enquêtes. Donc il va demander l'autorisation au Marshall d'en savoir plus, conduisant à une nouvelle identification. Mais aussi, Jacques cherche depuis toujours à reprendre contact avec son paternel. Mais comment faire quand tout a été mis en place pour le rendre introuvable? Eh bien, c'est une très très belle écriture de Linwood Barclay pour décrire justement ses allées et venues, ses tensions, ce suspense, cette recherche. Car en fait, son père n'était pas si loin de lui. Il a même su le protéger plus d'une fois. Voilà, donc, c'est un très très grand suspense pour décrire. Il ne sait rien des méfaits de son père, ni de ses ennemis, car ses ennemis existent bien. Ils vont même lui tendre un piège, que je ne vous décris pas, bien entendu, parce que un piège imprévisible. Et on peut dire que c'est du grand art que ce roman, Ces mensonges qui nous lient, de Linwood Barclay, avec un scénario original, voilà, suspense redoutable et personnage jubilatoire, Linwood Barclay livre un nouveau thriller implacable et hautement addictif. C'est absolument génial. Ces mensonges qui nous lient, de Linwood Barclay, qui vient de paraître chez Bellefond Noir. Alors maintenant, je dois vous parler d'un livre un peu particulier qui s'intitule « Vivre tout bas » de Jeanne Benhammer et qui vient de paraître chez Actes Sud. Ce livre, Vivre tout bas, est une vision toute personnelle de Jeanne Benhammer, imaginée à partir d'une sculpture de la nativité de Jésus, hein, avec la Vierge Marie et Saint Joseph. Une sculpture de la nativité réalisée par un artiste anonyme du XVe siècle, et puis à Valognes, elle a vu une scène qui représentait une femme allongée en pleine lecture. Elle a compris alors que c'était un sujet, un personnage féminin pour elle, qu'elle va situer sur une île en attendant un signe du ciel. Comme née du paysage, une femme apparaît au bord de la mer. On apprend que son fils, après la traversée de la grande souffrance, la mort en fait sur la croix, son fils n'est plus. On apprend qu'avant de disparaître, il l'a confié au bon soin de son ami Jean, le fidèle d'entre les fidèles, qui l'accompagne dans ce roman. On le voit, ce Jean, qui l'accompagne à distance respectueuse et attentive. Il est toujours pêcheur, ce Jean. Il va même se construire un bateau pour partir, lui aussi. Mais en attendant, il reste là, fidèle gardien de cette femme. Au village, où il y a une place pour les hommes qui palabrent, voilà, on voit bien, il y a aussi une petite place pour les femmes qui vont accueillir cette femme à bras ouverts. En particulier une grand-mère, et sa petite fille, car il y a aussi là une petite fille. Et c'est une rencontre cruciale, car le destin, un drame, un naufrage, a rendu cette enfant muette, orpheline, silencieuse, mais qui va se rapprocher naturellement de cette femme solitaire, qui écrit et dessine sur la pierre. Elle dessine des signes que l'enfant va reproduire comme un langage secret qui les unit toutes les deux et qui va lui permettre de retrouver un langage. Alors, on est entre vagues, les vagues de la mer, et falaise, parce qu'on est la petite maison qui héberge cette femme est au-dessus de la falaise. Alors elle descend de la falaise pour aller au village, mais elle descend aussi de la falaise pour aller marcher sur la terre et s'asseoir sur une pierre plate et contempler la mer. Et même, elle entre dans la mer, elle se baigne, elle nage dans la mer. Donc, ce livre raconte une version différente, imaginée par Jeanne Benhammer. C'est une évasion de Marie, mère et sainte, qui semble se découvrir corps et âme à la rencontre des autres, au contact des vies sans bruit, par l'exercice et la transmission d'un savoir secrètement acquis dans l'enfance. Une révolution intime, semble-t-il, ici, une liberté inouïe, celle d'écrire, même si le croyant n'adhère pas à ce personnage décrit par Jeanne Benhammer. Mais à Jean, oui, parce que sur son bateau qui songe écrire ces grands textes témoignages de lumière qu'il a écrit par la suite sur son ami et guide Jésus. On se laisse, il l'a bien fait quand il est allé sur l'île de Patmos pour écrire ses textes, l'Apocalypse et l'Évangile selon saint Jean. On se laisse emporter par l'écriture de ce texte du soleil, de la terre, de la mer, et des villageoises fort sympathiques qui brodent, voilà, et se soignent avec les plantes trouvées dans la nature. Donc cette femme écrit des respirations qui se cherchent et enflent dans les poitrines. Elle écrit des pas qui se posent malgré la fatigue, les cailloux, la faim et la soif des corps, des pas qui avancent. Elle est cette femme que la vie des autres traverse. Voilà. Donc je m'arrête là-dessus pour dire que c'est vrai que Jeanne Benaveur, vivre avec ce titre qu'elle accroche, vivre tout bas, Actes Sud, avant peut-être de régner comme elle l'a fait. Alors je vais vous parler aussi maintenant d'un livre qui est un essai, qui est différent de ceux que je vous ai présentés. Ça s'appelle « La société de la trahison ». Pour moi, c'est un essai, c'est un débat même, avec la crise mondiale qui nous secoue. Ça s'intitule, cet essai, « La société de la trahison » par Vincent Cespedes et c'est paru chez Albin Michel. Bien, et même nombreux exemples sont cités dans ce livre, de traîtres sont cités dans cet ouvrage, depuis Judas, vous savez, Judas avec Jésus, il avait cru que le Messie serait fort, ne serait pas ce personnage qui va se laisser clouer sur la croix. Donc Judas, mais il y en a d'autres qui sont cités dans ce livre, qui vont être traîtres. Il y a même aussi des résistants, des Allemands qui vont résister au nazisme, voilà. C'est la grande trahison, là. Mais la trahison qui fait de la trahison, le traître attire nécessairement ses semblables dans son sillage. Ce qui fait de la trahison, ça c'est donc Vincent Cespedes qui le dit, ce qui fait de la trahison un processus aussi sombre que contagieux, toute trahison tend en effet à devenir conspiration. Et s'il parle du mensonge en citant Sophia Kéros, qui dit « Il y a le soleil, le ciel et la mer, et puis quoi ? Un tissu de mensonges ». Mais malheureusement, il s'arrête là. Il se garde bien de dire que les mensonges sont répandus dans tout notre monde, dans notre société, qu'il y a un mal, que le mal aussi, provoquant toutes les divisions, la haine et même les guerres, puisqu'il y a beaucoup de guerres. Alors pour provoquer, remédier à cette société de trahison, il faudrait rétablir la confiance, une grande confiance, la loyauté aussi, et la résistance, c'est-à-dire lutter contre cette vaste crise de confiance qui a contaminé nos sociétés techno-industrielles. Moi, je dis appuyée par la mondialisation. Car sa critique ne dénonce pas les vérités cachées ou dissimulées par les hommes et les femmes de ce temps, constituant un héritage culturel. Voilà que l'on doit. Il oppose un peu ceux de droite en disant qu'ils inventent des choses et ceux du progrès qui vont dans le bon sens, semble-t-il. Mais il reprend une phrase de Franz Kafka qui dit ceci, « Quand remettra-t-on enfin ce monde à l'envers un peu d'aplomb ?» Voilà. Eh bien, c'est cela, en fait, qu'il s'agit de rétablir. La philarchie, dans sa quête d'une société plus juste, doit se prémunir contre ces formes de trahison et réaffirmer une fidélité radicale aux valeurs de justice, de solidarité et d'intégrité. Mais pas facile avec toutes ces guerres, je l'ai dit, internes et externes, qui menacent la paix. Et ça, c'est une réalité tangible. Même s'il reprend l'idée d'une éthique qui pourrait nous servir pour combattre. Comment faire dans un monde où les traîtres sont rois ? Une révolution, peut-être, du peuple contre les gouvernants et les technocrates de tout poil qui sont inamovibles. Alors, voilà, j'ai presque terminé les livres que je voulais vous présenter. Donc, ce sont des grands livres, pleins de lumière quand même. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'il y aura une soirée littéraire et musicale le samedi 22 mars à 17h à la Chapelle des Jésuites, qui se trouve rue du Lycée, 16 rue du Lycée. Le lycée Lalande, hein, voilà, à Bourg, avec des auteurs qui ont un rapport avec le lycée Lalande. L'association des Amis de la Chapelle veut ainsi célébrer les 40 ans de leur existence, une existence bien vivante, puisqu'on a fait, grâce à la ville de Bourg-en-Bresse, des restaurations de la toiture, de la façade, et qu'il y a encore bien des choses à faire au centre de cette chapelle, qui était la chapelle des Jésuites. Ce sont eux qui l'ont construite quand ils ont repris le collège des Jésuites, qui est devenu, avec la Révolution, une école centrale, et puis avec Napoléon, le lycée qui a pris le nom de Jérôme Lalande. Et c'est vrai que Marius Charnay, qui était proviseur à la retraite, qui a fondé cette association des Amis de la Chapelle. Et donc, il est mort il n'y a pas très très longtemps, il avait 100 ans. Donc, on va lui rendre hommage, je fais partie de cette association. Donc, on va lui rendre un grand hommage. Il y aura même des animations. Là, c'est une première partie littéraire et musique. Et puis, une grande exposition de produit, enfin, parce que il a fait ses grands panneaux, Marius Charnay, avec d'autres, ils ont fait des grands panneaux qui illustrent les chapelles latérales de cette chapelle pour montrer tous ces grands personnages qui ont été professeurs ou élèves du collège des Jésuites, dont Jérôme Lalande, qui a été voilà, un des personnages centrales. Voilà ce que je voulais vous dire. Retenez déjà cette date du samedi 22 mars 2025 à 17h, Chapelle des Jésuites. Et je vous laisse avec Jimmy. Et je vous remercie de votre écoute et de votre participation à ces grands livres. À bientôt. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.